quand je chantais ce matin, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, et on pourrait répéter ces mots pendant toute une journée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai accompagné mes chers amis Pierre et Jeannine Bolduc, qui travaillent avec nous en France, pendant toute cette épreuve qu'ils ont dû vivre. Lorsque Jeannine était en France avec les trois enfants et qu'elle devait revenir ici, c'était pas simple, pas tellement facile pour eux. Les accompagner pendant que Pierre était à l'hôpital se faire opérer. Et mercredi, lorsqu'on a reçu cette bonne nouvelle qu'il n'y avait là pas cancer, on n'en croyait pas. On était là, trois gamins, à se réjouir et à dire merci au Seigneur pour ses bontés qui se renouvellent à chaque matin. En tout cas, continuez à prier pour eux. On a hâte de les revoir de nouveau avec nous en France. Pierre et Jeannine nous manquent énormément parce qu'ils font quand même un très grand ministère. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'a donné à vivre depuis 20 ans. Oui, déjà 20 ans, il me semble, ça fait quelques années que je suis partie et j'ai commencé ma 22e année là-bas. Et je pense que vous pouvez le reconnaître par mon accent. Mes amis parisiens ne tolèrent pas qu'on n'ait pas un bon français, mais j'ai appris, j'ai aimé apprendre. Alors, je vais parcourir avec vous ces 22 ans, mais avant, j'aimerais que vous n'oubliez pas que je suis quand même québécoise, que j'ai accepté le Seigneur dans les années 70 à Saint-Hyacinthe avec Richard Houle. C'était le début de l'Église à l'époque. Et le Seigneur m'a formée ici au Québec pour partir là-bas en France pendant toutes ces années. Alors, la France, je ne sais pas où je dois diriger cette petite bestiole. Je ne suis pas tellement technique, je vais demander de l'aide de mon neveu. Ouh, tu pars? Ça ne marche pas? Oui, il ne faut pas me confier vos ordinateurs parce que non, ça ne marche pas. En tout cas, on peut aller avec le plan B. Ah, c'est parti. Alors, la France, près de 65 millions d'habitants. La France qui rentre trois fois dans le Québec. Alors, vous pouvez vous imaginer l'intensité des gens de là-bas. Et j'ai ce privilège de travailler dans la région nord-est de Paris. Alors, ce que je vais dire ce matin concerne vraiment, concerne vraiment la partie Paris. Parce que chaque région de la France est assez particulière. On ne peut pas généraliser ce que je vais vous dire ce matin. Alors, Paris et sa banlieue. Alors, je ne sais pas si on peut continuer. Alors, je suis arrivée en 1988 en France à travailler avec l'église d'Ozoir-la-Ferrière. Et lorsque je suis arrivée, l'église venait d'acheter ses bâtiments. Alors, vous avez une belle grange derrière et vous avez un bâtiment de façade qui était une boucherie. Nous étions à peu près une quarantaine de personnes à l'époque. Et le Seigneur a fait tout un travail. Voilà le bâtiment à l'heure actuelle. L'église maintenant, de l'église d'Ozoir-la-Ferrière, a plus de deux cultes le dimanche matin parce que l'église, elle est remplie. Et nous avons vu là une église fille naître à Pont-au-Combeau, à peu près 15 kilomètres d'Ozoir-la-Ferrière, et ils sont maintenant plus de 350 personnes. On a vu pendant toutes ces années voir la bonté de Dieu et de voir des personnes se tourner vers le Seigneur. Et quel privilège d'avoir pu participer et de voir ce que Dieu a fait pendant toutes ces années. En 98-2005, le Seigneur m'a appelé à compléter mon ministère à Ozoir avec les flambeaux Claire Flamme. C'est un ministère parmi les enfants, parmi la jeunesse, un ministère du scoutisme, Alors, lorsque mon cher pasteur Chris Short est venu me voir et qui m'a demandé, mais Carole, tu vas démarrer ce ministère dans l'église, j'ai dit, pardon, des scouts. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que ce n'est pas mon truc, que de monter une tente, de faire du feu et d'avoir un repas bien cuit au bout de quelques heures, ça, c'était moi. Mais à travers ce ministère, ce que j'ai pu voir, encore une fois, la bonté de Dieu à travers toute la France, parce que ce travail était pour toute la France, et de voir des enfants et des jeunes faire des pas et donner leur vie au Seigneur. C'est ça que je voulais voir, c'est ça que nous voulions voir à travers ce ministère, c'est que beaucoup d'enfants puissent venir à la connaissance de l'Évangile. Et un aspect extrêmement important, vu que c'est un ministère, un mouvement déclaré à Jeunesse et Sport du gouvernement de l'État, beaucoup de nos enfants étaient de familles de non chrétiennes, ce qui nous a permis de rentrer dans les familles non chrétiennes pour leur annoncer l'Évangile. Alors, ce ministère a été pour moi une source d'inspiration pour la suite. 2005-2018, le Seigneur m'a appelé à aller dans une autre église, l'église Clé-Souilly. Retenez bien ce nom, c'est là que je travaille maintenant. Cette ville est près de l'aéroport Charles de Gaulle. Alors, si vous arrivez à Paris, comme j'ai pu aller chercher leur fille là à Paris, alors l'église là est bien installée. Alors, l'église de Clé, je vais vous en parler un petit peu plus tard. 2019-2018, mon défi, c'est d'être plein temps à l'église de Clé-Souilly. Alors, pourquoi le 2018? Je ne rajeunis pas. Peut-être que vous, vous rajeunissez, mais moi, je vais vers le haut. Et 2018, ce sera l'heure de ma retraite au niveau des chiffres, mais pas au niveau du cœur. Et je pense d'être de retour après 30 ans ici au Québec. Clé-Souilly. Alors, Clé-Souilly est une belle petite ville, très bourgeoise. Comme vous pouvez voir, ces paysages, c'est une belle petite ville qui est agréable à vivre. Il y a là plus de 11 000, maintenant près de 15 000 habitants. Et c'est là qu'on a commencé une église il y a 10 ans. Ce que nous avons à cœur, c'est de voir que Dieu a fait tout un travail à travers les années. Richard et Brenda Fleming, qui étaient de nos missionnaires aussi, qui a démarré cette église-là, et deux autres couples missionnaires sont venus aider. Et par la suite, moi, je suis arrivée en 2005. Des ministères importants dans notre église, la jeunesse et nos pré-ados. Lorsque j'ai travaillé avec le mouvement des flambeaux et des clairs-flammes, je me suis rendu compte combien qu'on avait besoin de travailler avec notre nouvelle génération. C'est l'Église de demain. Si on ne prend pas le temps, si on ne s'occupe pas de notre nouvelle génération, l'Église de demain va devenir comme beaucoup d'églises que j'ai vues en France ou en Angleterre, avec beaucoup de têtes blanches et peu de relève. Je pense qu'il faut ne pas oublier de travailler parmi nos jeunes. Et c'est notre souci à l'église de Clé-Souilly. Mais une de nos grandes difficultés, c'est qu'on n'a pas le personnel voulu pour s'occuper d'eux. Alors, Pierre Boisduc et moi, nous nous occupons des préados, mais nous sommes tous les deux ici. Alors, ça veut dire que nos préados n'ont personne pour prendre soin d'eux pour le moment. Ils sont en attente de notre retour. Et ça m'attriste toujours de voir qu'on n'a pas dans notre église le personnel voulu pour s'occuper de cette nouvelle génération. L'église est ceci maintenant. Ce sont les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Madagascar, Brésil, Congo, Corée du Sud. On pourrait se dire, mais où sont les Français? C'est une chose qui est très importante dans la région parisienne. Beaucoup de nos églises, ce sont des gens qui viennent de d'autres pays, qui sont chrétiens et qui se joignent dans les églises. Alors, on a vraiment besoin d'atteindre les Français de souche pour pouvoir leur annoncer l'Évangile. Nous aimons ces gens-là et nous voulons les garder. Je ne dis pas ça pour qu'on puisse les mettre à l'extérieur, mais vous savez, les missions pensent que dans un avenir très très proche, nos futurs missionnaires viendront de la Corée du Sud et du Brésil. Parce que le nord de l'Amérique du Nord est en grande baisse au niveau des missionnaires et tout cela. Alors, l'Église a fêté ses 10 ans. Et ceci me rappelle, au tout début de mon arrivée à Ozoir, ils étaient plus de 50 et on est une cinquantaine à l'Église de Clé. Notre défi, c'est de pouvoir voir et revoir comme vous allez voir à la fin du mois de novembre pour vous 5 personnes qui sont venues à la connaissance de l'Évangile et qui vont se faire baptiser. Ce sont tous des personnes qui se sont fait baptiser tout dernièrement. Et pour nous, c'est un sujet de joie. Priez pour les 4 dernières photos que vous avez vues, Emmanuel, Jaco, Catherine et Joanne, qui viennent tout juste de se faire baptiser et qu'ils puissent là rester avec le Seigneur, attachés au Seigneur. C'est ça notre grand défi, c'est que les gens viennent à la connaissance de l'Évangile, mais qu'ils continuent à grandir avec lui. Nous avons une deuxième église, mais elle est en prison. Thierry, le pasteur avec qui je travaille, et un autre homme dans l'église, travaillent comme aumônier dans la prison, tout près de chez nous. Et c'est une église de 50 personnes. C'est le maximum qu'on peut avoir. Parce qu'on ne veut pas là avoir des problèmes de sécurité. Mais ces personnes sont aussi importantes pour nous à l'église de Clé. Parce que parfois, on s'occupe des familles de ces hommes qui sont en prison. Et lorsqu'ils sortiront, nous aimerions les intégrer dans notre église. Mais pas facile pour un prisonnier de s'intégrer dans une église et pas facile à une église d'accueillir quelqu'un qui a fait de la prison. Alors, priez pour ce ministère qui est aussi important que notre ministère dans l'église. Alors, voilà le défi que je voudrais vous lancer. Ce projet vient de tout juste de démarrer, il y a à peu près 2 semaines. Et nous avons à cœur d'atteindre tout le secteur nord de Clé-Souilly, à peu près 20 kilomètres. Il y a 26 villes et villages, plus de 100 000 personnes qui habitent là et qui n'ont pas là de chrétiens. Et notre désir, c'est de pouvoir atteindre ces villes et ces villages d'ici 2 ans. 26 villes, 26 villages. Alors, nous allons parcourir les rues, distribuer des tracts, parler avec des gens, les inviter à des concerts et tout cela. Ça nous demandera beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour la petite église que nous sommes. Nous avons besoin de vos prières dans cette direction. Un autre sujet de prière que j'aimerais vous donner, c'est qu'on est SDF. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Sans domicile fixe, c'est-à-dire que nous n'avons pas de lieu pour nous réunir. Nous sommes maintenant dans une église adventiste, comme ils ont leur culte le samedi, nous pouvons avoir nos cultes le dimanche. Tout simplement parce que nous avions un projet d'acheter un bâtiment dans le centre de Clé, mais le maire a préempté, c'est-à-dire a pris le droit sur le bâtiment que nous n'ajoutions pas ce bâtiment. Et ça arrive très régulièrement là-bas. Alors, je vous trouve très privilégiée que vous puissiez avoir des bâtiments pour vous réunir. Et j'étais à Saint-Georges la semaine passée. J'étais à Terrebonne-Mascouche. Le Seigneur bénit. Et je pense qu'il est important de se rappeler là où ce que nous étions à l'époque et là où ce que Dieu nous donne. Alors, depuis 3 mois, nous avons un petit bureau. C'est l'équivalent d'un petit studio qui nous coûte 450 euros par mois. Ça veut dire près de 750 dollars par mois. Juste un petit studio. Et c'est le bureau maintenant de Thierry. Et moi, enfin, je peux faire mes rencontres avec ceux que je suis là dans ce bureau au lieu de le faire dans ma voiture. Mais c'est des petits détails, mais je trouve important de voir que parfois on n'a pas tous les outils, mais quand même on voit la grâce de Dieu continuer à nous bénir. Consacrez-vous assidûment à la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez pour nous, afin que Dieu continue d'ouvrir des portes pour la parole, en sorte que nous puissions annoncer le mystère de Christ en France. C'est notre désir. Voilà 4 sujets de prière que j'aimerais vous mettre devant vous ce matin. Atteindre les villes et les villages de notre secteur dans les 2 ans. Que les chrétiens de l'Église de Clé puissent se mobiliser pour qu'on puisse atteindre ces villes et ces villages. D'avoir un local ou d'avoir un terrain à Clé souillé. La mise en place de responsables. Nous avons besoin là des adultes vraiment fondés dans la parole de Dieu pour prendre des responsabilités dans notre Église. Et le dernier, mon soutien. J'ai appris une bonne nouvelle. Il n'est plus de 800 par mois, mais de 500 par mois. Alors pour moi, c'est un sujet de reconnaissance. Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec moi, avec nous. À jamais, à jamais. Merci.
Merci beaucoup, Mme Allard. Mme Allard est une des missionnaires qu'on soutient à l'Église ici. Donc, si vous n'avez pas suivi à la fin, le manque à gagner par mois est maintenant de 500. Il lui reste à aller chercher un soutien de 500 par mois. Et en fait, c'est pour cette raison-là que vous êtes au Québec pour l'instant. Les missionnaires reviennent régulièrement dans leur pays d'origine pour des pauses à toutes les 3-4 ans. Dans cette situation-ci, Carole n'est pas ici parce qu'elle serait de pause, mais parce qu'il y a un besoin au niveau du soutien. Et l'Église ici soutient humblement, on donne 1 000 $ par année pour Mme Allard, dans l'ensemble des missionnaires qu'on soutient. Alors, si le Seigneur vous met à cœur de donner spécifiquement, vous pouvez le faire par le biais de l'Église, simplement donner tous les mois un montant et puis le mettre dans désigné pour un des missionnaires qu'on soutient ici, Mme Allard, et ça va être envoyé directement pour son soutien à elle, pour essayer de combler ce montant-là à gagner et qu'elle puisse retourner là le plus rapidement possible. C'est qui les neveux puis les nièces? J'étais juste curieux. Levez-vous donc un peu, là. Juste pour faire des liens dans nos têtes. C'est eux, les neveux puis les nièces de Mme Allard qui viennent de Saint-Hyacinthe. C'est bon. Juste faire des liens dans nos têtes avec les missionnaires. C'est quand même extraordinaire ce qui se fait là-bas, non? C'est quand même encourageant de voir tout ce qui s'est passé. C'est génial de le voir à travers toutes les années, de voir comment Dieu a été fidèle et Dieu a bâti. Et on le voit lorsque nous, on regarde l'histoire de l'Église ici. M. Beau est arrivé ici, puis on était dans une maison. Maintenant, on est rendu ici après, 40 ans. Mais ça fait du bien de voir la fidélité de Dieu, puis voir combien Dieu bâtit. Et cette assemblée-là à Pointe-au-Combo, qui est rendue à 300-350, c'est deuxième culte. Wow, c'est génial. Le Seigneur est fidèle. Je voulais remercier aussi l'équipe. Ah, oh, Marcel, il y a un autre lien à faire?
J'aimerais dire un petit mot que Carole a persévérément témoigné à moi quand je travaillais avec elle à l'Institut Saint-Hyacinthe. Et je peux dire que je suis un fruit de ses prières et de son témoignage fidèle.
Ah oui, c'est vrai.
Une de celles qui a témoigné fidèlement durant 3 ans. C'était un dur à cuire. Et
ah, c'est bon. C'est l'œuvre de Dieu un peu partout sur la terre. Vous voyez, la mission, c'est pas si abstrait que ça. C'est concret et on veut les accompagner dans la prière avec nos finances aussi. On veut être avec eux puis on veut accomplir la mission ici. Ah, c'est génial de faire ces liens-là. Ça va nous aider à prier puis à mettre des noms, des noms sur les visages. On va aller ensemble dans un mot de prière avant de se tourner dans la parole de Dieu. Juste avant d'aller dans la prière, je voulais remercier l'équipe de louange qui est allée à Mission Globale pendant toute la fin de semaine. C'était l'équipe de louange d'ici, une partie de l'équipe qui était là. Et je sais que ça a été extrêmement apprécié. Alors, merci à toute l'équipe qui vous avez donné des heures en préparation. Alexandre a perdu sa voix à travers le processus, alors c'est pour ça que la jeunesse n'a pas eu de classe ce matin, c'est parce qu'Alexandre a dû arrêter de chanter à un certain moment. Et c'est pour ça que Jonathan est en avant ce matin. Alexandre ne pouvait pas dire John. On va aller dans un mot de prière ensemble. Père éternel, je veux te remercier pour notre sœur Carole Allard. Son témoignage ce matin touche mon cœur et m'aide à voir à quel point la mission est concrète. Tout près de nous, Seigneur, même si elle est à des milliers de kilomètres, c'est tout près de nous, c'est concret. Ce sont des âmes qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Ce sont ces visages qui ont été baptisés dans les derniers mois, les dernières années. Ce sont des bâtiments qui sont achetés pour rassembler ton peuple, pour faire la conquête, Seigneur, d'un monde qui a besoin d'entendre Jésus-Christ. Merci, Père, pour sa persévérance, son dévouement à travers toutes ces années. Seigneur, merci pour ta fidélité envers elle, pour la supporter, l'aider à persévérer, à continuer, malgré l'éloignement, malgré l'encouragement. Pour toutes ces âmes gagnées, combien, Seigneur, ont refusé l'Évangile? Combien, Seigneur, l'ont retourné? Combien, Seigneur, ont abandonné dans la course? Mais tu es fidèle, Seigneur, et tu bâtis et tu sauves. Et des louanges seront élevées dans l'éternité, Seigneur, parce que tu t'es servi de notre sœur Carole, qui a répondu à ton appel et qui a consacré sa vie à te servir, par amour pour toi, Jésus, par amour pour les hommes. Touche nos cœurs, Seigneur. Envoie-nous en mission cette semaine autour de nous. Envoie-nous en mission dans nos familles. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir la bouche pour toi et envoie-nous, s'il te plaît, Seigneur, comme bon te semblera jusqu'aux extrémités de la terre. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Ce matin, on prend juste un petit 25 minutes environ dans la parole. J'ai à cœur de vous partager une pensée, quelque chose qui était sur mon cœur en pensant à la mission, à notre mission, à la mission qui est confiée aux enfants de Dieu. Et je crois que c'est ça qui est à la base de toute action missionnaire. Comment on explique le dévouement d'une dame comme Carole pendant 20 et 30 années? Qu'est-ce qui est à la base de son action? Et je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre nous lorsque nous servons le Seigneur. Quand tu commences ta semaine et tu décides de donner du temps pour servir Dieu, quand tu persévères dans une église, tu décides de t'engager dans un ministère, quand tu décides d'ouvrir la bouche auprès d'un ami à l'école, un collègue de classe, quand tu décides d'ouvrir la bouche auprès d'un voisin, qu'est-ce qui te pousse à passer à l'action pour annoncer l'Évangile, pour parler de Dieu, pour servir le Seigneur dans l'Église? Je crois que c'est la compassion et la miséricorde. Ce qui nous pousse à nous consacrer, comme Carole le fait depuis 20 ans, bientôt 30 ans, c'est la compassion et la miséricorde. Vous me direz que c'est l'amour pour Dieu. C'est vrai, mais c'est l'amour pour Dieu et le prochain. C'est la compassion que Dieu vient déposer dans un cœur, la miséricorde que Dieu vient déposer dans un cœur, qui pousse quelqu'un à se donner comme ça, fidèlement. Tournez avec moi dans l'Évangile de Luc, s'il vous plaît. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10. Si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, vous êtes en visite, tournez-vous vers votre voisin, passez-lui la Bible qu'on vous a prêtée tout à l'heure. Il va vous la tourner dans Luc 10. On va aller ensemble au verset 25. Et je vais vous lire les versets 25 à 37. Luc 10, 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Un docteur de la loi, Jésus, il veut le coincer, d'accord? Il veut passer Jésus en examen. Il est là pour tester Jésus, alors il lui demande, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Si on vous posait la question à vous, « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? » Marcel. J'aurais pu prendre Jean-Paul, j'aurais pu prendre Stéphane. Marcel, admettons que quelqu'un t'accoste dans la rue. OK, il t'arrête. Oh, il est en train de servir, c'est un bon samaritain. Marcel Lapointe. Oui, c'est toi. Ça tombe bien, hein? C'est un bon samaritain. Admettons, Marcel, quelqu'un t'accoste dans la rue, il t'arrête. Puis là, il s'accroche après toi, puis il dit, « Monsieur, monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Qu'est-ce que tu répondrais? Ah, t'es pas mal cher. Si quelqu'un vous accrochait, qu'est-ce que vous diriez? Un collègue de travail vous accroche au travail, puis il vous dit, « Hey! » J'ai entendu dire que tu lisais la Bible, toi. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est quoi votre réponse? Pardon? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé? C'est pas ça, ça serait pas ça votre réponse? Ou vous y diriez, ben, obéis à la loi puis tu seras sauvé? Se reconnaître pécheur puis croire en Jésus pour être sauvé. Ce serait ça notre réflexe, non? Puis, il me semble qu'on ne serait pas dans l'erreur. Je veux dire, Jean, dans son évangile, je vous lis juste 2 passages, dans Jean 3, 36, Jean dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il me semble la bonne réponse, Jésus, c'est de dire qu'il faut croire en toi. Non? Quelques chapitres plus loin, dans l'évangile de Jean, c'est Jésus lui-même à ce moment-là qui parle, c'est pas l'apôtre Jean, dans Jean 6, 47. Jésus parle et il dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Jésus aurait pu donner cette réponse-là. Il me semble que naturellement, moi, c'est ça que je dirais. Quelqu'un m'accroche dans la rue puis il dit, « Comment je fais pour être sauvé? » Ben, crois en Jésus, reconnais tes pécheurs, puis place ta foi en lui. Tu peux par toi-même, mon ami. C'est tellement plus simple que ça. Tu as juste à croire en Jésus. Tu vas être sauvé. Jésus aurait pu répondre de cette manière-là. C'est ça qu'il dit dans Jean. Mais ce n'est pas ça qu'il donne comme réponse. En fait, il dirige le docteur de la loi vers la loi. C'est lui qui prend l'initiative ici, Jésus. Je suis d'accord qu'il ne formule pas la réponse, mais il redirige le docteur de la loi, pas vers lui premièrement, mais vers la loi. Imaginez un instant que vous êtes au travail, OK? Puis vous avez fait connaissance avec un autre chrétien ou à l'école. À l'école, à un moment donné, vous avez identifié quelqu'un d'autre qui est chrétien au cégep, avec le GBU, tout ça. Puis à un moment donné, vous êtes en train de dîner dans la cafétéria puis vous voyez que cette personne-là, ce frère-là dans la foi, engage une conversation avec une autre personne. Puis là, il commence à jaser même de la foi. Puis l'autre personne lui dit, « Ouais, mais comment qu'on fait pour être sauvé? » Imaginez que ce chrétien-là aurait répondu comme Jésus. Il aurait dirigé vers la loi, puis il aurait dit, « Mais aime Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, puis aime ton prochain comme toi-même. » Est-ce que vous n'auriez pas cherché à le corriger? Je pense que vous auriez voulu vous assurer que cette personne-là ne parte pas en se disant qu'elle peut être sauvée par ses propres forces, par ses propres œuvres. Est-ce qu'il n'y a pas un danger ici, par la réponse que Jésus donne, que cet homme-là reparte un peu confus, puis qu'il essaye de gagner son ciel par lui-même? Voyez-vous, on doit reconnaître ici qu'il y a un contexte particulier. Il y a un contexte bien précis qui amène Jésus à répondre comme cela, et c'est évident dans le passage. Et peut-être que si vous êtes avec nous depuis un bon bout de temps dans l'Évangile de Matthieu, l'histoire aussi du jeune homme riche peut revenir à votre mémoire. Parce qu'avec le jeune homme riche, c'est un peu la même question, hein? Le jeune homme riche vient à Jésus et puis il lui demande, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus va lui-même donner les réponses, lui-même le diriger vers la loi directement. Alors à la même question, Jésus répond de la même manière. Voyez-vous, ce docteur de la loi, tout comme le jeune homme riche, a besoin de voir son cœur. Et c'est ce que Jésus va faire. En lui posant des nouvelles questions, en le retournant vers la loi, Jésus a révélé son cœur. Jésus désire le diriger vers la loi. C'est lui qui le fait. Il demande, ben, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? C'est Jésus qui est en train de le diriger ici. Le docteur de la loi est un spécialiste de la loi et il donne un excellent résumé de la loi de Dieu. Il ne pouvait pas mieux résumer la loi de Dieu que cela. Il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Parfaite réponse. Si jamais on vous pose la question, comment résumer la loi de Dieu? Parfaite réponse. 100% à son examen comme note de passage. Il ne s'est pas enfargé dans tous les détails, comment est-ce qu'on fait pour aimer Dieu. Il est allé au cœur de ça et il dit ce qu'on a besoin, c'est un cœur entier pour Dieu et ça doit se manifester après ça dans ma vie avec mon prochain, dans ma relation avec mon prochain. 100% à la note de passage, d'accord? Mais je devrais dire 100% comme note de passage à l'examen théorique. D'accord? C'est là qu'est le problème. Ce docteur de la loi a 100% comme note à l'examen théorique. Cet homme-là pouvait passer n'importe quel examen théorique sur la loi de Dieu, il aurait passé haut la main. On s'entend, peut-être une question sur le Messie, le Sauveur, pas passé. Je ne pense pas que si Jésus lui avait dit « Et qui est le Sauveur tant attendu? » Je ne pense pas qu'il aurait dit « C'est toi ». Mais quand même, tout un beau résumé de la loi. Partez avec cette réponse-là, vous avez résumé tout l'Ancien Testament sur ce que Dieu attend de nous. Très fort, mais il ne passerait pas l'examen pratique. Voyez-vous, le bug, c'est qu'il aurait passé l'examen théorique, mais aurait échoué l'examen pratique, et lui pense qu'il aurait passé l'examen pratique. Alors, ce que Jésus fait, c'est qu'il va l'amener vers l'examen pratique. C'est la même chose qu'un permis de conduire. Il y en a qui passent leur permis de conduire de ce temps-ci. Vous réussissez l'examen théorique, mais vous échouez l'examen pratique. Qu'est-ce que ça donne? La voiture reste dans le stationnement. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui a passé son examen théorique puis qui prend la route après avoir coulé son examen pratique. Êtes-vous d'accord? Je veux dire, c'est un danger sur la route, là. J'ai le goût de vous dire que c'est exactement la même chose pour tout ce qui est question de foi. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui passe son examen théorique et qui coule son examen pratique et qui, après ça, prend la route imbu de lui-même, convaincu qu'il a toutes les réponses. Cet homme-là allait couler son examen pratique, même s'il était un spécialiste de la loi. Alors, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va pousser cet homme à réfléchir davantage. Il va lui démontrer qu'il est très fort en théorie, mais peut-être pas prêt à mettre la parole de Dieu en pratique. Et remarquez bien ce que Jésus fait, hein? Si vous allez avec moi au verset 28, Jésus lui répond, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Jésus est prêt à le laisser partir. Il n'a pas encore saisi l'Évangile. Il ne sait pas encore c'est qui le sauveur. Comment ça se fait que Jésus est prêt à le laisser partir avec ça? Cet homme-là est profondément confus. Mais Jésus est prêt à le laisser partir à ce moment-là. Voyez-vous, si cet homme pense qu'il est capable par lui-même d'obéir à ses deux commandements parfaitement, Jésus ne peut pas l'aider davantage. L'homme lui demande « Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit « Ben, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? » Il lui dit « Voici les deux commandements. » Il dit « C'est très bien. Si tu penses que c'est suffisant, mon ami, tu peux t'en aller. » Cet homme n'a aucune conscience de son incapacité à obéir à la parole de Dieu. Et Jésus peut seulement aider ceux qui savent qu'ils sont vraiment pécheurs. Les autres, Jésus les laisse partir. Tu viens ici à l'église et tu as le sentiment que tu es une bonne personne. Tu t'en viens chercher des principes pour mettre un peu d'ordre dans ta vie, mais tu es sûr que par toi-même, tu peux y arriver. Jésus ne peut rien faire pour toi. Mais si au contraire, depuis quelque temps, tu as un fardeau de plus en plus lourd sur ton cœur, parce que tu lis la parole de Dieu, tu entends des prédications, puis tu dis « j'y arrive pas ». Je n'y arrive pas. Je ne suis pas capable de le faire. Et il y a une conviction de péché qui est en train de se placer sur ton cœur. Dieu est en train de te montrer que tu es pécheur. Oh là, on commence à parler, par exemple. Là, Jésus-Christ va pouvoir faire quelque chose pour toi. C'est probablement une œuvre de l'Esprit qui est en train de se faire dans ta vie. Et Dieu est en train de t'attirer à Christ, te montrant que tu es pécheur. Mais cet homme-là était tellement imbu de lui-même. Jésus-Christ ne pouvait pas l'aider. Alors, il est tellement imbu de lui-même, il n'a pas terminé son test avec Jésus. Alors, il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Et il espère réussir enfin à le coincer. Jésus lui raconte une histoire, une parabole absolument extraordinaire où Jésus, d'une manière merveilleuse, va complètement inverser les rôles. Ça, il y a vraiment juste lui qui est capable de faire ça comme ça. Mais c'est fantastique ce qu'il fait avec cette personne-là. Et il lui raconte cette histoire merveilleuse qui ressemble tellement à l'Évangile, vous remarquerez. En racontant l'histoire de ce bon Samaritain, ça ressemble tellement à ce que Jésus lui-même a fait pour nous. Vous avez dans cette histoire-là tout l'esprit du christianisme. Tout ce que Christ a fait pour nous et veut faire pour nous, et tout ce qu'il veut nous amener à faire. Tout est résumé juste dans cette belle histoire-là. On ne pourra pas aller dans tous les détails, mais voici, Jésus raconte une histoire dans laquelle celui qui fera le bien est un Samaritain, non un Juif. Or, vous devez savoir que les Juifs et les Samaritains s'haïssaient royalement. Ces deux peuples-là n'étaient pas capables de se sentir. Les Juifs regardaient les Samaritains comme des impurs, une race confuse qui avait été créée de Juifs et de non-Juifs, de gens qui étaient restés derrière lorsqu'il y avait eu des déportations et qui avaient pris la place des Juifs en quelque sorte. Alors les Juifs et les Samaritains n'étaient pas capables de se sentir, mais dans l'histoire de Jésus, là où deux Juifs vont lamentablement échouer à mettre en pratique la parole de Dieu, un Samaritain sera l'exemple parfait de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Et ce que Jésus fait ici, il enseigne à ce docteur de la loi qui est imbu de lui-même et qui est certain de son salut, voici ce qu'il enseigne. Aimer Dieu et son prochain, c'est avoir le cœur sur la main. Et Dieu est en train de lui révéler son propre cœur. C'est avoir le cœur sur la main, être prêt à se salir pour venir en aide à n'importe qui Dieu placera sur mon chemin. C'est une leçon sur la miséricorde qu'on a ici, d'accord? Et Jésus fait juste lui montrer qu'il ne serait pas prêt à vivre l'examen pratique de la foi. En gros, la miséricorde se salit les mains. La miséricorde accepte d'être éclaboussée par le sang des blessés. C'est assez littéral dans cette histoire-là, non? La miséricorde se salit les mains, sort de sa zone de confort pour prendre des risques, sort son argent, sort son temps, part en mission. La miséricorde et la compassion oublient toutes les barrières, vont vers l'étranger, sont touchés par le besoin d'autrui, poussés par l'amour pour Dieu et le prochain. Et dans cette histoire-là, la miséricorde ne vient pas de celui de qui on devrait s'attendre qu'elle vienne. Il y a un monsieur qui vient juste de réussir son examen théorique à 100%, mais il aurait échoué son test pratique. Parce que la miséricorde va venir d'un Samaritain. Celui qui connaissait la parole de Dieu n'était pas miséricordieux. Ça va tellement loin que lorsque Jésus lui demande « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme? » Le docteur de la loi ne se salira même pas les lèvres à dire « Le Samaritain. » Il va dire « Celui qui a exercé la miséricorde. » Et Jésus lui dit « Va, toi, et fais de même. Fais comme ce Samaritain. » Prends-le pour modèle parce qu'il n'est pas resté à la théorie, mais il a vraiment aimé son prochain et a été rempli de compassion. Il s'est sali les mains par miséricorde et par compassion avec le sang de cet homme. Il a sorti son argent, il lui a consacré du temps, il a laissé son horaire être bouleversé par cet homme. Pourquoi je vous parle de ça ce matin en relation avec la mission, avec ce que notre sœur Carole Allard fait depuis 20-30 ans? C'est parce que je crois que Dieu donne des missionnaires aux églises pour nous aider à accomplir la mission et pour nous édifier, être des modèles pour nous. Pour nous remettre en question, nous aussi, dans notre engagement envers Jésus-Christ. C'est évident dans le contexte que Jésus voulait montrer à cet homme son cœur. Et c'est pour ça qu'il arrive avec cette question piège. Il le redirige vers la loi. Jésus veut lui montrer son cœur. Et c'est pour ça qu'il a répondu ainsi. Mais je crois aussi fermement, et c'est là que je vais appliquer le passage à l'Église, d'accord? C'est là que je vais l'appliquer à chacune d'entre nos vies. Je crois aussi fermement que Jésus est vraiment en train de dire que la miséricorde et la compassion font partie de la vie chrétienne. Je crois que Jésus est clairement en train de dire qu'être miséricordieux et rempli de compassion n'est pas optionnel. Je pense que c'est ça que Jésus dit ici aussi. Ce n'est pas juste un piège pour lui montrer son cœur. Jésus a dit dans Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, écoutez bien ceci, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Je répète ça, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Dites-moi, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ne sont pas miséricordieux? Avez-vous une autre manière de tourner cette phrase-là? Qu'est-ce qui arrive, selon Jésus, avec ceux qui ne seront pas miséricordieux? Ils n'obtiendront pas miséricorde. Heureux les miséricordieux, ceux qui ont compassion, ceux qui se mettent dans la peau de l'autre, ceux qui décident de sortir de leur zone de confort, ceux qui décident d'être touchés par le besoin d'autrui, touchés par la situation de l'autre, touchés par la détresse de l'autre, touchés par le péché de l'autre, touchés par les besoins de l'autre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde est nécessaire à la vie chrétienne. Je pourrais dire que la miséricorde et la compassion sont des fruits nécessaires de la vie chrétienne. Et je pense que c'est pour cela que Carole Allard a consacré toutes ces années-là à la mission. Tournez avec moi dans la lettre de Jacques, s'il vous plaît. Vers la fin du Nouveau Testament, tournez avec moi dans Jacques 2. Vous avez dans Luc 10, Jésus qui parle à un pharisien. Ce n'est pas un chrétien. Il était pris avec la loi de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'ils pensaient comme ça, eux. Ils n'avaient pas entendu parler de Jésus, d'accord? Facilement, on va tous dire ça. On va se dire, c'était correct pour eux, ils n'avaient rien compris. Nous, on a connu Jésus. Maintenant, lorsqu'on arrive dans Jacques, voyez-vous, on est quelques temps plus tard, Jésus est mort et ressuscité, il est parti au ciel, retourné, rejoindre son Père. L'Évangile a été annoncé, les églises sont en train d'être implantées un peu partout dans l'Empire romain, même au-delà de l'Empire romain. On annonce le salut par Jésus-Christ. À ceux qui posent la question, que doit-on faire pour avoir la vie éternelle? On répond, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Reconnais tes pécheurs, crois en Jésus et tu auras la vie éternelle. Maintenant, Jacques écrit une lettre, la lettre de Jacques. On est beaucoup plus tard. Et on voit bien en lisant ce livre que Jacques a parfois l'impression de rencontrer à son tour des docteurs de la loi, des gens comme le docteur de la loi qui est venu à Jésus. On ne les appellera peut-être pas des docteurs de la loi, d'accord? On pourrait les appeler des docteurs de l'Évangile. Jacques a le sentiment de rencontrer des gens qui auraient passé haut la main un examen théorique sur le salut. Ces gens-là pouvaient expliquer sans problème que Jésus est le seul chemin pour être sauvé, mais Jacques s'inquiète pour leur éternité. Je vous lis le passage, Jacques 2, 14 à 18. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, passer son examen théorique, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Jacques va plus loin encore dans les versets qui suivent, vous pourrez lire ça. Voyez-vous, frères et sœurs, la miséricorde et la compassion sont des marques de la foi chrétienne. Elles ne sont pas optionnelles. Et parce que Jacques rencontrait trop souvent dans les assemblées parmi les chrétiens, des gens qui auraient passé n'importe quel examen théorique sur le salut haut la main. Ils avaient toutes les bonnes réponses. Mais Jacques ne voyait pas des fruits dans leur vie, des fruits de miséricorde et de compassion. Jacques s'inquiétait pour eux. Parce qu'il se disait, ces gens-là pensent peut-être qu'ils sont sauvés, mais ont-ils même l'Esprit de Dieu? Ils ont toute la théorie, mais en ont-ils la pratique? En fait, je dirais qu'être miséricordieux, c'est la marque de celui qui a reçu miséricorde de la part de Dieu. Et c'est là que je vais vous réconcilier avec le Nouveau Testament. Être miséricordieux, animé de compassion, caractérisé par une sensibilité à la situation de l'autre, au péché de l'autre, à son besoin, aux situations de crise dans sa vie. Quand Dieu place quelqu'un devant nous et on est ému par leurs besoins au lieu d'être centré sur nous, c'est la marque d'une personne qui a reçu la miséricorde de la part de Dieu. Êtes-vous à l'aise avec ça? Est-ce que c'est biblique ce que je vous dis là? Tournez avec moi dans un dernier passage ce matin dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 9. Peut-être le verset 8, le verset 9, selon la Bible que vous avez entre les mains. 1 Pierre 2, 9. « Vous, au contraire, soyez bien attentifs aux paroles de Pierre ici. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, parce que Pierre s'adresse ici à des païens comme vous et moi. Nous ne sommes pas des descendants d'Abraham par le sang. Nous ne sommes pas des Juifs. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, c'est là que ça se passe. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Celui qui n'avait pas obtenu miséricorde, mais qui un jour a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui s'est vu dans son état de pauvreté spirituelle, pécheur, perdu, condamné sous la colère de Dieu. Et qui, à son tour, a obtenu la miséricorde. Il a reconnu qu'il était pécheur et il a accepté que le sacrifice de Jésus-Christ le lave entièrement de ses péchés. Quelle sorte de vie va-t-il mener maintenant? Est-ce qu'il ne deviendra pas une personne caractérisée par la compassion et la miséricorde? Jacques rencontrait dans les églises des théoriciens qui étaient prêts à passer un examen théorique n'importe quand sur le christianisme. Son problème, c'est qu'en les connaissant, certains d'entre eux, ils ne voyaient pas les fruits de l'esprit dans leur vie. Ils ne voyaient pas une vie bouleversée, humiliée par l'amour de Dieu, rendue sensible maintenant aux besoins des autres. Et ils s'inquiétaient pour leur éternité. Ils avaient peur qu'ils soient comme ces docteurs de la loi, qui connaissaient très bien la parole de Dieu, qui pouvaient passer un examen théorique n'importe quand, haut la main, et qui pourtant auraient échoué le test pratique. Et Dieu nous a donné cette lettre de Jacques plus tard pour qu'on ne pense pas que ces choses-là sont bonnes juste pour les Juifs qui n'ont pas reconnu le Messie, mais que nous sommes à notre tour en danger de nous asseoir sur notre salut et d'être imbus de nous-mêmes en nous disant « J'étais pécheur, j'ai été gracié, l'éternité m'est assurée, je n'ai pas besoin d'être transformé maintenant. » Frères et sœurs, qu'est-ce qui fait qu'une personne comme Carole alors quitte son confort ici pour consacrer toute sa vie à la mission comme ça? Qu'est-ce qui va faire que vous allez pardonner à une personne qui vous a offensé? Qu'est-ce qui va faire que vous allez aller aider un besoin, une personne, un besoin qui vous a été montré cette semaine? Vous connaissez actuellement dans votre vie, parce que Dieu vous les a montrés des fois depuis des semaines et des mois, des endroits, des moments, des personnes, des situations où Dieu vous demande d'être à votre tour miséricordieux. Que ce soit un besoin financier, que ce soit une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de votre temps. Cette personne-là peut être quelqu'un vers qui vous n'iriez jamais si ce n'était à cause de l'amour de Jésus-Christ pour vous. Le Samaritain qui va vers un Juif. Ça se peut qu'il y ait des barrières culturelles, des barrières de préjugés sociaux dans votre cœur. Ça se peut que vous les regardiez de haut, ces gens-là. Mais si Christ vous a touché avec sa miséricorde, la compassion dans votre vie n'est pas une option. Vous connaissez, frères et sœurs, les situations que l'Esprit-Saint a amenées à votre cœur dans les dernières semaines, les derniers mois. Peut-être que c'est un frère qui vous a fait du tort, une relation qui est brisée. Peut-être que c'est un conjoint qui a besoin de votre miséricorde et votre compassion. Peut-être que c'est un collègue de travail que vous n'êtes pas capable de sentir. Peut-être que c'est un besoin que vous allez rencontrer cette semaine. Peut-être que quelqu'un a besoin de votre argent. Peut-être que quelqu'un a besoin de votre temps. Peut-être que vous avez besoin de venir servir dans l'Église pour pouvoir faire preuve de compassion envers des gens de l'extérieur. Peut-être que c'est à bouffe pour tous. Je ne sais pas. Ce qu'il est certain, c'est que si Dieu vous a fait grâce, vous êtes appelé à votre tour à faire grâce, à être rempli de compassion. Parce qu'en faisant cela, c'est ça que Pierre nous dit à la fin du passage, en faisant cela, en étant miséricordieux, les gens viendront vous voir et vous demanderont « Comment on fait pour devenir comme toi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? » Et ils viendront avec un cœur humble. Et vous pourrez leur parler cette fois-là de Jésus-Christ qui vous a accordé sa miséricorde. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, dans ta grâce, dans ta patience, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Seigneur, ramène-nous chaque jour à ce moment où tu nous as fait grâce, où tu as été miséricordieux envers nous. Ramène-nous à chaque jour à tous ces moments où nous péchons et nous nous repentons et nous te demandons pardon. Touche-nous, Seigneur, par ta miséricorde constamment, quotidiennement. Montre-nous ta grâce et ta compassion envers nous, Seigneur. Afin qu'à notre tour, nous soyons un peuple qui fasse de bonnes œuvres, des œuvres de compassion, des œuvres de grâce où nous tendons à la main à celui qui nous rejette, nous tendons à la main à celui qui est abandonné, nous tendons la main à celui qui est rejeté. Donne-nous, Seigneur, des ministères de compassion dans cette Église. Donne-nous cette semaine, Seigneur, d'exercer un ministère de compassion envers un frère, une sœur, un étranger, quelqu'un qui ne te connaît pas, un ami, un collègue de travail, Seigneur. Fais déborder, Seigneur, de nos cœurs une compassion à la mesure de celle que tu as déployée envers nous, afin que nous soyons vrais, Seigneur, dans notre foi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.